Lecture choisie, Alphonse Allais. La vaniteuse localité.
Mais enfin, mille tonnerres de crétonnerres! Vous commencez à me raser avec vos grands hommes. Est-ce ma faute à moi s'il n'est jamais né le moindre grand homme dans notre pays?
Et furieux, monsieur le maire frappait à coups redoublés le drap vert de la table. Cela se passait à une séance du conseil municipal de Bisemois sur l'oreille. Quelques édiles s'étaient mis en tête d'ériger sur la principale place de Bisemois une statue ou tout au moins un fort buste. D'autres, peu exigeants, se seraient à la rigueur contentés d'une bonne plaque commémorative. On avait mis monsieur le maire en demeure de découvrir un grand homme né natif de Bisemois sur l'oreille. Mais monsieur le maire n'avait rien trouvé du tout.
« Vous ne me ferez pas croire !» s'écria un des plus farouches conseillers, « qu'il n'est pas né un seul grand homme à Bisemois depuis le XIIIe siècle ! Car enfin, Bisemois date du XIIIe siècle ! Et même notre ville avait une certaine importance avant la Révolution !»«
Je ne vous dis pas !» ripostait le pauvre maître. « Mais moi, je ne connais aucun grand homme né chez nous, et j'avoue ne pas m'en désoler autrement !» Une ville peut très bien se passer de statues.
De statues, peut-être, mais de plaques commémoratives. Il m'est pénible à moi, citoyen de Bisemois sur l'oreille, de penser que ma localité ne possède même pas une plaque commémorative, une de ces plaques comme on en rencontre parfois sur des maisons dans des petites bourgades de 700 ou 800 habitants. C'est en effet intolérable!
Appuya la majorité turbulente du conseil.
Si on fouillait dans les archives, peut-être trouverait-on un bonhomme du temps passé, digne de bronze ou de marbre.
C'est une idée. Le secrétaire de la mairie fut chargé de cette recherche, à laquelle il travailla un long mois. Finalement, il dut avouer son insuccès. Le seul personnage vaguement notoire, originaire de Bisemois, était un nommé Poncelet, qui fut gouverneur de Carcassonne sous Henri IV. Malheureusement, ce personnage, ayant un beau jour livré la ville à l'armée belge, contre une petite somme d'argent, peut-être ne convenait-il pas de perpétuer la mémoire de ce gentleman, dont, d'ailleurs, la femme avait une fâcheuse tendance à se mêler de ce qui ne la regardait pas. La population de Bisemois sur l'oreille fut atterrée. Pas même une plaque commémorative à coller quelque part. À la suivante séance du conseil, un édile se leva, grave, et proposa. « Messieurs, voulez-vous en rapporter à moi ? Notre vaillante petite cité aura sa plaque, tout comme une autre, et nous l'inaugurerons dimanche, pas plus tard. » On convint de s'en rapporter au mystérieux édile. Il paraissait si sûr de lui, et d'attendre au dimanche suivant. À Bisemois sur l'oreille, vivait, en une coquette petite maison de la rue Saint-Michel, un vieux général de brigade en retraite, le général Dumachin, Jean-Baptiste Auguste. Un de ces héroïques débris qui, à l'instar du colonel Ramolo, ne se console pas de voir le gouvernement s'obstiner à recruter l'armée dans le civil. Ce vieux brave était venu là vivre tranquillement de sa retraite. Or, le dimanche suivant, vers 6 heures de l'après-midi, comme il revenait de la chasse chez des amis, le général Dumachin vit un grand attroupement autour de sa demeure. Le maire, en écharpe, et les autorités semblaient l'attendre. Dès qu'il parut, la fanfare municipale déchira l'air d'une vigoureuse marseillaise. La foule s'écarta, respectueuse.
Et le maire, sans un mot, mais avec une émotion visible, dirigea de son doigt tendu le regard du général vers une plaque de marbre fraîchement vissée au-dessus de la porte. Lapidaire et d'or, l'inscription disait « C'est dans cette maison que mourra notre illustre compatriote, du machin, Jean-Baptiste Auguste, général français. » Du machin, Jean-Baptiste Auguste, général français, la trouva plutôt mauvaise. Et je ne compte étonner personne en annonçant que sa coquette petite maison de la rue Saint-Michel est à vendre, présentement, sans la plaque. Le crocodile et l'autruche. Fable sud-africaine. Il y avait une fois un crocodile qui sommeillait au bord d'une rivière. Vint à passer une autruche, une belle autruche, stupide de cerveau et fière des superbes plumes qu'arborait son derrière. Quand elle aperçut le crocodile,
« Te voilà, toi, grand vaurien !»
dit-elle avec l'insolence des volatiles de sa caste. Vexé de cette désobligeante interpellation et furieux d'être ainsi réveillé inutilement, le crocodile répondit sur le ton de l'aigreur. « D'abord, vous commencez à me raser, vous, avec vos façons de parler alligator et à travers. » « Sachez que je ne suis pas un grand vaurien, mais bien un grand saurien, ce qui n'est fichtre pas la même chose. »«
Vaurien ou saurien, peu importe, vous n'en êtes pas moins un des plus vilains moineaux de toute la zone. Dieu que vous êtes laid, mon pauvre ami !»
Et en faisant ces mauvais compliments au saurien, car le crocodile est bien un saurien, la ridicule autruche se tournait et se retournait pour faire admirer les magnifiques plumes de son postérieur. À ce moment, un nuage de poussière apparut à l'horizon.
« Alerte ! Alerte ! » fit le crocodile complaisant. « Voici venir des chasseurs d'autruches. Filez, ma belle amie, ou gare les balles de ces messieurs. Quant à moi, ma laideur, et ma sauvegarde. »
Le fait est, répondit l'autruche, qu'on n'a aucun intérêt à vous tuer, vous, et à s'emparer de votre queue pour la mettre sur les chapeaux des belles dames anglaises, comme on fait de la mienne.
Au lieu de s'attarder à cette dernière insolence, l'autruche aurait mieux fait de filer, car au même instant, une balle venait la frapper en plein cœur. Le crocodile eut aussi un grand tort, celui de se réjouir de ce résultat, car le bruit qu'il produisit en se frottant les mains fit se retourner un des chasseurs. Une balle dans l'œil le foudroya. Quelques mois après ces événements, dans un grand magasin de New Bond Street, une jeune femme, d'une rare élégance, extrayait de son portefeuille des banques-notes pour payer des plumes d'autruche qu'elle venait d'acquérir. Or, ce portefeuille était fabriqué avec la peau de notre feu crocodile et les riches plumes ne provenaient point d'une autre croupion que celui de notre regrettée autruche. Moralité : soyez vilain ou soyez beau, pour la santé, c'est kiff-kiff bourricot.
Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits-enfants. Traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. À les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il agitait sa queue dans la poussière, comme s'il était d'avance triomphant. Les animaux devant sa mine altière, dans les forêts s'enfuyaient tout tremblant. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara un combat de géants. Mais près de là courait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Imprudence des fumeurs. Je ne sais pas avec quelle autre maladie mon pauvre ami confondait l'encéphalite, mais à chaque instant, il invoquait cette inflammation pour expliquer ses fréquents petits malaises. « Tu ne manges pas, Prosper ?»« Non, c'est mon encéphalite qui me retombe sur l'estomac. » D'autres fois, Prosper exigeait de prendre une voiture pour une course insignifiante, parce que son encéphalite lui travaillait les pieds. Prosper, d'ailleurs, adorait tous les mots qui sortent du répertoire commun, et surtout les mots d'aspect scientifique. Il proférait volontiers. « Me voici ce soir à Montmartre, et ce matin, je déjeunais à Grenelle. » Je suis un véritable cosmopolite. Ou bien, laissez-moi vous conter le dernier anachronisme de Madame C. Elle a demandé à son architecte ce qui coûtait le plus cher, le mètre cube de gaz ou le mètre cube d'électricité. Il s'esclaffait de rire et répétait. Le mètre cube d'électricité, a-t-on idée d'un pareil anachronisme ? Un jour que je l'avais à peine blagué, « Toi, me dit-il, tu es un bon garçon, mais mitigé de beaucoup de rosseries. » Prosper n'avait d'autre raison de vivre ici-bas que sa qualité d'inventeur. Entre mille autres découvertes, par lui baptisé d'appellation saugrenue, cosmopolite, anachronique et mitigé, je citerai le pyrocide. Le pyrocide, comme l'indique son nom baroque, fruit de l'incestueuse copulation d'un lapin grec et d'une carpe latine, est un liquide destiné à détruire le feu en général et les incendies en particulier. Chaque fois que nous traversions le jardin des Tuileries, Prosper ne manquait pas, montrant la place vide du palais, de déplorer. Dire qu'avec mon pyrocide. Il en avait toujours dans ses poches de son fameux pyrocide, et souvent il l'essayait devant nous l'hiver dans les petites réunions artistiques et littéraires où nous consommions notre studieuse jeunesse. Tenez! « Vous allez voir. » Il sortait de sa poche une fiole dont le contenu arrosait la houille flamboyante de la cheminée. Résultat, un dégagement de vapeur, corrodante à l'envi, expulsante de chacun, sternutatoire et strangulatoire. Peu après, hâtons-nous de l'ajouter, le feu flambait de plus belle en lâtre joyeux. Le pyrocide n'avait anéanti aucune combustion. « Je ne suis pas encore bien fixé sur les proportions », expliquait Prosper.
Or, il arriva, un beau jour, qu'un jeune homme, fraîchement débarqué à Paris et titulaire d'un petit héritage, se laissa appâter par les grands mots de Prosper et versa quelques billets de 1 000 francs dans son entreprise de pyrocide. Triomphal, déjà, Prosper parlait de congédier les pompiers de Paris et de les remplacer par de simples employés à lui, chargés de la judicieuse distribution du pyrocide sur les incendies qui viendraient à se produire sur les points les plus variés de la capitale. Tout entier à la réalisation de son rêve, il n'assista plus à nos petites réunions. Quand nous le revîmes, un sombre désespoir, une amère tristesse se peignait sur ses traits. « Eh bien, Prosper, quoi donc ? Ah, mon pauvre ami ! Quel affreux malheur ! Parle ! J'avais installé à Ivry un entrepôt de mon pyrocide. Plus de 3000 hectolitres de ce liquide s'y trouvaient déjà réunis. Tout cela détruit, anéanti en moins d'une heure. Par quoi donc ? Par un incendie, mon pauvre ami. De la Tour Eiffel pour 1900. Au risque de faire beaucoup de chagrin à Maurice Barrès, les pouvoirs publics semblent disposés à exécuter une exposition universelle en l'an 1900. Je n'apprendrai rien à personne en ajoutant que ces magnifiques joutes de l'industrie internationale tiendront leurs assises dans les quartiers du Champ de Mars, du Trocadéro et des Champs-Élysées. On ira même jusqu'à démolir, pleurez mes yeux, cette merveille de grâce et d'aménagement qui s'appelle le Palais de l'Industrie. La question de la suppression de la Tour Eiffel fut un instant agitée en haut lieu. Peut-être même ce haut lieu n'était-il autre que la propre troisième plateforme de la dite tour. On discuta longtemps, paraît-il. Finalement, sur la réflexion d'un judicieux esprit que, le conseil de la Légion d'honneur ayant laissé sa rosette à Monsieur Eiffel, on pouvait bien conserver sa tour, on décida de ne point déboulonner encore le métallique édifice. Apprenant cette résolution, mon ami le capitaine Cap sourit dans ses longues moustaches, vida d'un trait le gobelet qui se trouvait à sa portée et dit « J'ai une idée !» Le contraire m'eût étonné, Cap. Une idée pour rendre utile cette stupide tour qui fut, en 1889, une utile démonstration industrielle, mais qui est devenue si parfaitement oiseuse. Puis on l'a assez vue, la tour Eiffel. On l'a trop vue. Conservons-la, soit, mais donnons-lui un autre aspect. Si on la renversait la tête en bas, les pieds en l'air, c'est précisément à quoi j'ai pensé. Mais mon idée ne s'arrête pas là. Votre idée, Cap, ne saurait point s'arrêter. Comme le temps, comme l'espace, elle ne connaît point de bornes. Merci, mon garçon. Donc, nous renversons la tour Eiffel et nous la plantons la tête en bas, les pattes en l'air. Puis, nous l'enveloppons d'une couche de magnifique, décorative et parfaitement imperméable céramique.
Oh, bravo, Cap. Et puis ?
Et puis, quand j'ai obtenu un ensemble parfaitement étanche, j'établis des robinets dans le bas et je la remplis d'eau.
D'eau ? Capitaine, quelle horreur !
Oui, d'eau !
Bien entendu, avant cette opération, j'ai débarrassé la tour des constructions en bois et en général de toutes les matières organiques qui corromperaient mon eau. Devinez-vous maintenant ?
Je devine, ou je crois deviner, que vous exposerez à l'admiration des foules un somptueux gobelet quadrangulaire de 300 mètres de haut.
Un gobelet rempli de quoi ?
Un gobelet rempli d'eau.
D'eau comment ?
Je comprends ! D'eau ferrugineuse ! Ah, Cap, vous êtes génial !
Oui, d'eau ferrugineuse et gratuite à la disposition de nos contemporains anémiers. Au bout de quelques années, toute cette masse de fer dissoute peu à peu dans l'eau des pluies aura passé dans l'organisme des Parisiens, leur communiquant vigueur et santé.
Si au lieu d'eau, nous mettions du gin, Cap, du bon vieux gin ?
Le capitaine me répondit sévèrement.
Le goût du gin ne va pas avec le goût du fer.
L'alcool !
L'alcool !
Voilà l'alcool !
L'alcool !
L'affreux vitriol !
L'alcool !
L'odieux pétrole !
L'alcool !
Qu'on jette derrière le col !
L'alcool !
L'alcool !
L'alcool !
Partout c'est la triste farandole de l'alcool.
Dites-donc, vous, il me semble que vous buvez beaucoup, petit voyou.
Et vous, là, il me semble que vous ne vous privez pas, mon petit gars.
Eh oui, ce qu'il vous faut à tous, c'est du whisky bien passé.
C'est le délire de l'alcool,
le cabanon,
la camisole,
au fond de vos verres, c'est la misère. Pendant que vous perdez la raison, vos enfants pleurent à la maison. Voyez la femme qui bat sa femme.
Regardez donc cet œil vitreux
et sa mâchoire de boîtreux.
C'est une loque qui se disloque. Assez de crimes, assez de viols, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool.
La santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété.
La santé, la santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété.
Si malgré ce qu'on vient de vous dire, vous désirez, avant de partir, prendre encore un petit verre au bar, il n'est certainement pas trop tard.
L'alcool, c'est la misère. Assez de crimes, assez de viols, assez d'alcool, assez d'alcool, assez d'alcool.
Avant, j'étais très bien vu, et maintenant, je fais le guignol. Avec les barbus, voyez ce qu'a fait de moi l'alcool. L'alcool, toujours l'alcool.
Vite, videz vos verres plus vite que ça. Videz vos verres plus vite que ça.
Videz vos verres plus vite que ça.
Videz plus vite que ça.
Videz vos verres plus vite que ça.
payez, payez votre addition. Quittez ces lieux de perdition. N'oubliez pas que la santé dépend de la sobriété.
Si malgré ce qu'on vient de vous dire, vous désirez avant de partir prendre encore un petit verre au bar, il n'est certainement pas trop tard.
Ce n'est pas joli de boire, il vaut mieux vous arrêter. Ça n'importe que des déboires, c'est mauvais pour la santé.
La santé, c'est la sobriété, mesdames. La santé, c'est la sobriété.
Payez, payez votre addition, quittez ces lieux de perdition.
La santé,
c'est pas de la sobriété.
Si malgré ce qu'on vient de vous dire,
quittez ces lieux de perdition.
Prendre encore un petit verre au bar,
c'est pas de la sobriété.
L'alcool, c'est la
sobriété. Quittez ces lieux de perdition.
Prendre encore un petit verre au bar,
c'est pas de la sobriété.